Europe 1,
midi 14h,
la France bouge. Elisabeth Assayag.
Bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 14h et nous avons une heure pour mettre en avant des projets, vos initiatives, parce qu'on le voit chaque jour dans La France bouge, chacun à son échelle, a la capacité d'améliorer le monde pendant cette période si particulière et donc incertaine. Pour en parler à mes côtés pendant toute l'émission, Sophie Echen, bonjour.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Et notre coach Clara Audry, associée chez Cap Horn, qui est parmi nous pendant toute la semaine. Bonjour Clara.
Bonjour Clara. Bonjour Elisabeth, bonjour Sophie.
Ravie d'être avec vous. Alors, on l'a vu, on le voit chaque jour, c'est pas simple de se lancer pendant cette crise. Et pourtant, certains osent, certains l'ont fait. Bonjour Mathieu Zera.
Bonjour à toutes.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Yaka Français. Yaka, c'est Y-A-K-A et français, ben, c'est français. Yaka Français, c'est une place de marché, une marketplace, comme on dit, responsable, co-responsable du fabriqué en France. Et votre objectif, c'est de valoriser le savoir-faire français. Alors, vous vendez, je suis allée faire un tour sur votre site, vous vendez des sacs, des stylos, des vêtements et leurs points communs. C'est la France. Comment allez-vous vous distinguer? Bien, vous savez comment ça marche. Vous allez faire un pitch. C'est parti, vous avez 1 minute 30.
Très bien. Bah, déjà, encore merci de nous recevoir. Alors oui, effectivement, Yaka Français, c'est une plateforme Made in France et éco-responsable. Alors pourquoi éco-responsable? Parce que déjà, on estime que l'achat d'un produit fabriqué en France, c'est déjà en soi une démarche éco-responsable car ça limite déjà considérablement l'impact carbone. Donc nous, on a voulu quand même pousser le curseur un peu plus loin en incitant en fait notre clientèle, plutôt en l'encourageant avec une barre de recherche où il inscrit en fait son code postal pour trouver les produits au plus près de chez lui. Donc ainsi, l'encourager à acheter au plus près de chez lui. On propose aussi également un service qui est tout juste en train d'ouvrir, un service de recyclage de vieux vêtements pour l'inciter aussi à recycler ses vieux vêtements en échange de bons valables sur le site et ou en dons associatifs. Mais comme vous l'avez dit un petit peu précédemment, c'est avant tout une marketplace made in France. Et donc, ce qui est le plus important pour nous, c'est nos marques. Et aujourd'hui, elles sont au nombre de 25. Elles sont très, 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 très portées sur la fabrication en France parce que nous estimons que c'est aussi très important pour le client de retrouver quelque chose de qualitatif et surtout fabriqué en France. Comment on choisit nos marques? Eh ben, on les caste, si je puis dire. On leur demande, un peu comme vous faites, de nous faire un petit pitch de comment sont fabriqués leurs produits. On s'assure du processus de fabrication. Et ensuite, on valide avec eux les produits.
Vous avez entendu? C'est le goût.
J'ai entendu.
Ça y est, c'est fini. Bon, merci pour votre pitch. Je me tourne directement à vous, Clara Audry, notre coach. Votre première question après le pitch de Mathieu Zera pour Yaka Français.
Oui, alors on voit bien l'émergence de plateformes sur des verticales en particulier, des univers. On peut vider son dressing, trouver la petite attention. Donc là, et je trouve vraiment très intéressant le fait de s'orienter sur une gamme 100% française avec de la sélection et de la curation. Alors peut-être pour revenir sur vos marques, quel modèle économique vous leur proposez, quelle rémunération et peut-être nous donner un petit ordre d'idée de gamme de prix, où est-ce qu'on se situe lorsque l'on va sur Yaka Français?
Tout à fait. Alors, plusieurs réponses. D'abord sur notre modèle économique. Donc aujourd'hui, les marques qui viennent postuler chez nous et qui entreront chez nous, en fait, n'auront pas de frais d'entrée ni d'abonnement. On leur demande simplement une commission sur les ventes. Voilà, en gros, on synthétise souvent par cette phrase, si vous faites pas de vente, vous n'aurez pas de frais.
C'est-à-dire voilà. Vous percevez une commission à chaque vente?
On perçoit une commission à chaque vente.
De quel ordre?
Qui est effectuée. De 12% pour le lancement. Et on a prévu 3 paliers en fonction du chiffre de vente qui est effectué sur notre plateforme. Voilà. On propose également à côté des services complémentaires pour accompagner, on va dire, les marques émergentes, c'est-à-dire qui ne sont pas encore soit positionnées en termes de prix, soit qui n'ont peut-être pas encore la visibilité nécessaire et ni des démarches entrepreneuriales assez fortes. Donc on est là pour les accompagner parce que Florian et moi, on est entrepreneurs depuis pas mal d'années. Mon associé, tout à fait. On est entrepreneurs depuis pas mal d'années et on va dire qu'on distille un petit peu notre savoir-faire pour les aider aussi à démarrer l'entrepreneuriat de leur marque. C'est-à-dire que parfois, ils ont besoin de conseils ou d'accompagnement marketing parce qu'on se positionne avec eux aussi là-dessus. Et là, ça rentre effectivement dans des services complémentaires. Sinon, tout le reste, Ouvrir une boutique chez nous reste complètement gratuit.
Et vos prix alors Clara voulait connaître un petit peu la gamme de prix.
Alors la gamme de prix, alors tout dépend évidemment de ce que la marque a à vendre, mais aujourd'hui sur à peu près un peu plus de 600 produits présents sur la plateforme, on a déjà une sélection de produits à moins de 30 euros d'environ 300 produits, ce qui est pas mal pour du Made in France. Et tout le reste, ça va osciller entre 35 et ça peut monter jusqu'à 175 euros environ selon le produit.
Vous avez déjà un petit recul par rapport aux ventes que vous avez effectuées ?
C'est-à-dire ?
Déjà, vous avez déjà beaucoup vendu ? Vous avez une
estimation ? Pour l'instant, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés avant le lancement du site, on avait peur justement de ne pas pouvoir les remplir à cause de la crise sanitaire qui a eu lieu. Et pourtant, il s'est avéré que la majorité des Français, je pense, a commencé à prendre conscience que le consommer en France devenait important et ça s'est ressenti auprès de nos chiffres aussi. On dépasse nos objectifs de toute façon pour ce mois-ci. Et pour l'instant, ça s'annonce bien pour le reste de l'année.
Sophie Chen.
Oui, vous parliez d'un casting des marques qui veulent entrer sur votre site, Yaka Français. Selon quels critères ce casting ?
Alors, le premier critère très important pour nous, c'est déjà, un, que l'entreprise soit française. Le deuxième critère plus important, c'est qu'il fabrique son produit en France. Voilà, ça, c'est les deux critères plus importants. Après, c'est vraiment affiné selon le produit qu'il a à vendre. Parce qu'on a aussi conscience que certaines matières premières pour fabriquer des vêtements, par exemple, sont infaisable au niveau de l'industrie française. Donc on fait un peu au cas par cas, mais dans tous les cas on discute énormément avec eux et leur conception aussi du Made in France est importante pour nous. Il faut que ça rejoigne un peu nos convictions, que les nôtres aussi rejoignent les leurs, parce qu'on les caste, mais eux aussi nous castent, comme vous avez dit, il y a d'autres marketplaces, et faut aussi leur prouver quelque part qu'on est pas plus valable, mais en tout cas aussi dans leur conception des choses. Et c'est peut-être là qu'on se différencie de plus, peut-être des autres, c'est qu'on passe énormément de temps avec eux.
Dernière chose, vous avez besoin de quoi aujourd'hui ?
On a besoin de quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est surtout beaucoup plus de visibilité, pour continuer à accroître nos chiffres. Et évidemment, ouvrir la gamme. Pour l'instant, on est positionné surtout sur de la mode, de l'accessoire et de la maison. Et à très court terme, on est déjà en train d'envisager en fait une ouverture dans des gammes luxe ou gastronomiques. Oui, tout à fait. Mais on ne veut pas les mettre au même endroit parce qu'il faut quand même garder une certaine cohérence. C'est compliqué, comme je dis à quelques vendeurs justement gastronomiques qui nous ont appelé, c'est compliqué de vendre une bouteille de bière, une boîte de pâté à côté d'un pantalon quand même. Donc, il faut qu'on essaie aussi, nous, de développer une certaine cohérence.
Et bien surtout, donnez-nous de vos nouvelles. On a envie de savoir ce que deviendra Yaka Français. Merci à vous, Mathieu Zera. Je rappelle que vous êtes donc le cofondateur de Yaka Français.
Il est 13h16. Europe 1.
Remplacer des produits issus du pétrole par des produits naturels, c'est ce que met en place Afiren. C'est la solution à découvrir avec Sophie Echen. À tout de suite. Il est 13h19 et dans la France bouge, Elisabeth, on découvre la solution du jour avec Sophie Echen. Oui, alors que ce vendredi 5 juin marque la journée mondiale de l'environnement, aujourd'hui c'est une entreprise qui fabrique des ingrédients verts pour remplacer les produits issus de la pétrochimie. C'est la solution avec vous, Sophie Echen.
Oui, c'est l'entreprise Afiren qui fait ça. Créée en 2012, elle est basée à Clermont-Ferrand et à Lyon. En fait, Afiren produit des molécules biosourcées créées à partir de la fermentation de matières végétales. Des molécules équivalentes à celles normalement issues du pétrole. En tout, Afiren fabrique 7 acides organiques naturels avec une application très large. Ça va de l'industrie agroalimentaire avec les arômes, les conservateurs et même la nourriture animale où ces molécules servent à remplacer les antibiotiques. On les retrouve aussi dans les secteurs pharmaceutiques, des cosmétiques, de la parfumerie. Bref, un petit peu partout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout est 100% naturel. L'objectif est d'avoir zéro impact sur l'environnement. Et en plus de ça, Afiren fait partie de la French Tech 120. C'est 120 entreprises françaises les plus prometteuses. Et cette entreprise, c'est vous qui l'avez cofondée, Nicolas Sordet. Bonjour.
Tout à fait. Bonjour. Bonjour Sophie. Merci pour votre invitation. Quelle présentation. je ne sais pas si j'aurais pu faire mieux. C'est très bien résumé. Effectivement, on a développé Afiren en 2012. avec comme objectif de remplacer le pétrole et de créer des molécules 100% naturelles dans une logique de recycler des végétaux hein, et des coproduits de l'industrie agroalimentaire notamment, pour avoir une offre plus propre pour préserver la santé, l'environnement et valoriser cette matière première végétale.
Oui, c'est ça en fait. Afirène, ça peut être une réponse aux enjeux posés par la crise sanitaire, à savoir se tourner vers une industrie plus verte.
Tout à fait. En fait, il est clair qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a quand même le réchauffement climatique, c'est un petit peu anxiogène. Alors, mais le réchauffement climatique, on doit lutter contre ça. On a une accélération des températures qui est claire. Et c'est vrai que ça va passer par une modification du comportement, des habitudes de chacun dans sa vie de tous les jours, mais aussi par l'innovation. Faire la même chose qu'avant, mais en polluant moins, en impactant moins négativement l'environnement. C'est exactement ça qu'on a proposé et qu'on va proposer via la construction de notre première usine, puisqu'on va on ne crée pas de déchets dans notre process de production de ces ingrédients. Et en plus, on va réduire drastiquement les émissions de CO2 par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, donc c'est positif.
Justement, cette première usine, le chantier va démarrer cet été à Carlin, en Moselle, je crois que c'est ça. Quels enjeux ça représente? Comment vous l'avez financé? Et oui, quels enjeux ça représente?
Alors, c'est exactement le chantier doit démarrer normalement dans la deuxième partie de l'année pour être capable de produire 16 000 tonnes d'acide organique à partir de 2022. Et c'est vrai que quand on a démarré notre aventure, notamment avec Jérémy Pessiot, on était trois dans un labo et les gens étaient toujours un petit peu, nous prenaient un peu pour des fous quand on leur disait qu'on voulait construire une usine. Et c'est vrai que c'est à peu près 60 millions d'euros d'investissement pour cette usine et on l'a financé avec des investisseurs privés, avec des fonds d'investissement, mais aussi avec BPI France. On s'est associé avec eux pour créer notre filiale qui s'appelle Afirène Neoxy et qui aura pour vocation, dans le Grand Est, à valoriser donc les coproduits de l'industrie du sucre pour les transformer en produits naturels et remplacer ceux qui sont aujourd'hui à base de pétrole.
Pendant la crise, vous dites que vous avez été financé par des investisseurs, aussi la BPI. Est-ce que tout a continué normalement ou vous avez mis en sommeil quelques-uns de vos projets? Est-ce que la crise a changé quelque chose?
Alors en fait, elle a impacté un petit peu nos activités, mais finalement nous, on prône cette agilité et cette façon de penser un peu différente, puisqu'aujourd'hui on ne crée pas un projet industriel sans avoir une approche un peu différente. Et c'est vrai qu'on était déjà beaucoup en télétravail, parce qu'on a l'équipe est un petit peu dispersée. Du coup, ça nous a pas beaucoup touché. Ils ont fait un super boulot. Ils ont été capables de gérer cette situation au mieux pour pas perdre de temps. Après, c'est vrai que cette crise pose la question d'un sourcing local, pose la question de l'environnement. Et je pense que la solution qu'on est en train de proposer, c'est quand même l'avenir. On se rend compte que on va pas être dépendant de certains pays asiatiques pour justement produire ces ingrédients-là. Et en plus, l'environnement, à terme, le réchauffement climatique, ça pourra avoir des impacts potentiellement plus importants que le Covid. Donc tout ça est quand même bénéfique et on a géré au mieux cette partie-là.
Ne plus être dépendant des pays asiatiques pour produire ces ingrédients verts, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, que ça continue comme ça. Ça s'appelle Afirène. Merci à vous, Nicolas Sordet.
Il est 13h24. Europe 1.
Restez avec nous, gros plan sur les associations sportives. Elles sont en grande difficulté. Comment les aider? Vous allez voir qu'il existe, heureusement, des solutions. À tout de suite. Cet après-midi dans La France bouge, un dossier du jour consacré aux associations, clubs ou fédérations sportives mises à l'arrêt à cause de la crise que nous traversons, Elisabeth.
Et oui, parce qu'il faut les sauver, hein, ces associations sportives. Elles sont plus de 360 000 et ce sont souvent elles qui déclenchent des vocations. Le sport démarre dans ces clubs de sport amateurs et depuis la mi-mars, ces clubs sont complètement à l'arrêt. Alors pour les aider, une plateforme a vu le jour. Elle a été mise en place par la Fondation du sport français. Ça s'appelle Soutien ton club. Bonjour Thierry Braillard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes ancien secrétaire d'État chargé des sports et nouvellement nommé président de la Fondation du sport français. La situation de ces clubs amateurs, c'est en quelque sorte le cœur du sport. Ils sont en souffrance. Ainsi, la Fondation de France a pris l'initiative de soutenir ce sport français avec Soutien ton club. Quel est le principe?
Oui, le principe, c'est que toute personne physique ou toute société, donc personne morale qui souhaite apporter un don qui fera l'objet d'une déduction fiscale à hauteur de 66%, peut le faire sur la plateforme Soutien ton club. Et ce don, ils peuvent même le flécher, c'est-à-dire plutôt qu'il aille à une œuvre collective, ils peuvent choisir eux-mêmes le club sportif à qui ils veulent faire ce don. Voilà la spécificité de cette plateforme et de cette opération.
Donc faire un don à des clubs que l'on choisit, hein, c'est pas vous qui les imposez sur la plateforme, en fonction de nos affinités, on choisit le club.
Vous choisissez le club de votre choix, ça peut être votre premier club, ça peut être le club où sont vos enfants, ça peut être un club de cœur. Il faut qu'il soit bien sûr inscrit sur la plateforme et à partir de là, ben, vous déterminez le montant du don et vous recevez dans la minute qui suit votre certificat CERFA de déduction fiscale à hauteur de 66%, quasiment deux tiers du don. Donc c'est un outil important que la Fondation met en place pour permettre aux clubs sportifs, comme vous le disiez, qui sont en difficulté, qui sont en souffrance, de pouvoir par cette opération récupérer un peu de trésorerie pour préparer la saison prochaine.
Alors si on en est là, c'est parce que il y a des pertes, hein, des pertes pour les clubs. Je me tourne vers vous, Sophie Echen. On peut les chiffrer ces pertes causées par l'épidémie?
Oui, selon une enquête menée par le think tank Sport et Citoyenneté et la start-up La Centrale du Sport, on parle d'une perte moyenne de 6 800 € par club. Alors ce chiffre s'explique aussi par la forte densité d'activités sportives pendant le printemps. Et toujours selon cette même enquête, 8 événements en moyenne ont été annulés entre les mois de mars et de mai. Alors ça peut être des tournois, des stages, des soirées ou des vides-greniers par club, encore une fois, ou des vides-greniers organisés par les clubs, par exemple. Or, il faut savoir que ce genre d'événement représente une partie très importante de l'économie des clubs, un peu plus de 15%.
Alors Thierry Braillard, l'opération a été lancée il y a un peu plus d'une dizaine de jours. Vous en êtes à combien dans les fonds récoltés pour aider ces clubs?
Ben pour l'instant, il y a plus de 3 600 clubs qui se sont inscrits. Et j'allais dire, il y a un flot maintenant quotidien. Donc, c'est une opération, comme on dit, qui monte en puissance. Nous avons pour l'instant en tout récolté plus de 350 000 euros de dons. Il faut savoir qu'il y a la possibilité de nourrir un fonds de solidarité. Nous avons eu un mécène, et permettez-moi de le citer, c'est la société Decathlon, c'est la première, qui a décidé de mettre 100 000 euros au fonds de solidarité. Et à la fin de l'opération, en septembre, ce fonds de solidarité sera intégralement distribué soit à des associations sportives qui n'auront rien eu, soit à des associations qui auront eu mais qui sont en souffrance parce qu'il y a beaucoup d'emplois aussi dans les clubs sportifs et il y a beaucoup de personnes qui sont inquiètes de leur emploi. Donc on arrive aussi pour essayer de protéger tout ce monde-là.
Clara Audry, notre coach du fonds Cap Horn.
Oui, alors c'est vrai que peut-être pour redonner un vent d'optimisme, on a déjà 34 millions de pratiquants, je crois, de différentes pratiques sportives. Alors on se dit que cet arrêt qui a été brutal, eh bien, s'arrêtera à la minute où on ne sera plus assigné à résidence et où les diverses contraintes seront levées. Donc c'est sûr qu'il faut, en attendant, s'armer de patience et de moyens également. Peut-être sur la partie des dons qui ne sont pas justement fléché vers des clubs de proximité. Comment vous faites un peu votre allocation? Comment vous donnez vous priorisez?
Alors, déjà, il y a des pratiquants, mais là, on s'adresse principalement aux licenciés. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le club, c'est le cœur du sport, parce que c'est là où on éduque, c'est là où on s'entraîne, c'est là où on joue collectivement, où on porte le même maillot, alors qu'un pratiquant, c'est sa pratique individuelle, il va faire du sport comme il veut, où il veut. Donc, c'est un peu différent. Là, on s'adresse vraiment au club sportif. Ensuite, en ce qui concerne le fonds de solidarité, bien entendu, ça va se faire en toute transparence. Et il y a un règlement concernant ce fonds de solidarité qui est sur la plateforme, que tout le monde peut aller consulter. Et il y a différents critères qui nous permettront d'attribuer le fonds de solidarité à la fin du mois de septembre.
Vous restez avec nous, Thierry Braillard. Hein. Vous allez voir que les régions aussi se mobilisent pour soutenir les associations et les clubs de sport. Bonjour Jean-Paul Omeyer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président en charge des sports de la région Grand Est. Alors la région Grand Est a pris aussi le sujet du sport à bras-le-corps. Hein. Vous avez vu très vite arriver le problème des clubs de sport dans votre région au moment du début du confinement.
Tout à fait. Je veux dire, on a été touché en premier par cette pandémie. Et dès début mars, la préfète de région avec le président de région Jean Rotner ont mis en place une task force Covid. Et dès la première réunion, a été identifié la difficulté émergente pour l'ensemble du secteur sportif. On avait chiffré pour les 28 clubs professionnels que nous suivons une perte par journée annulée de l'ordre de 2 millions d'euros rien qu'en billetterie sèche. Ce qui veut dire que comme on était à 73% de la saison, ça fait des pertes extrêmement importantes. Alors après le monde du sport, il y a évidemment le monde professionnel. Après, il y a tous les clubs qui sont employeurs.
Mais il y a beaucoup de mais il y a pourtant beaucoup de bénévoles dans ces clubs. Ce n'est plus le cas.
Tout à
ça
fait.
Se professionnalise quand même.
Oui, oui, mais par contre, le trou dans la raquette, c'est effectivement les clubs qui sont gérés par les bénévoles.
Bien sûr.
Et le fonds de soutien, soutien ton club, mis en place par Thierry Braillard,
oui.
est véritablement l'outil qui va permettre de répondre à travers le fonds de solidarité à tous ces clubs gérés par des bénévoles et qui ont perdu beaucoup de leurs recettes.
D'ailleurs, vous travaillez pour abonder le fonds de Thierry Braillard, de Soutien ton club,
Absolument.
Avec l'aide de la région, c'est important. Et vous avez créé des fonds, un fonds de résistance
oui.
de 44 millions d'euros.
Tout à fait.
C'est énorme.
Un fonds de résistance qui justement permet à toutes les structures qui passent à côté des aides de l'État, dont il faut rappeler quand même que pour une fois, elles ont également concerné le monde du sport. Donc, nous avons aujourd'hui, sur le fonds résistance qui a été mis en place, pu déjà accompagner de manière extrêmement importante l'ensemble des 664 dossiers de demandes associatives, TPE, PME, avec de manière importante le monde associatif qui peut bénéficier d'une aide pouvant aller jusqu'à 30 000 euros avec 2 ans de différé et 5 annuités de remboursement sans intérêt.
Thierry Braillard, avec le fonds, avec Soutien ton club, on pourra maintenir du coup la pérennité de tous ces clubs si on continue sens-là.
Je l'espère. D'une part, il faut préciser que l'inscription du club est gratuite et que s'il s'agit d'une opération d'intérêt général, la Fondation du Sport est déclarée d'utilité publique, donc c'est pas du tout mercantile et au contraire. Et bien sûr qu'il faut que les clubs s'approprient l'opération. Si l'opération est un succès, c'est parce que les clubs se la seront appropriés et iront eux-mêmes chercher des donateurs pour leur propre club.
Et
l'argent ne tombe pas du ciel.
Et ça va
il faut parfois aller le susciter et le fait que le don soit défiscalisable est, à mon avis, un atout supplémentaire offert au club pour qu'ils aient cherché des donateurs.
Et ça va dans ce sens-là. Merci beaucoup Thierry Braillard. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation du Sport Français, que vous avez réagi avec Soutien ton club. Et merci à vous Jean-Paul Omeyer, le vice-président en charge des sports de la région Grand Est.
Il est 13h36. Europe 1.
Il est au chevet du rugby amateur qui souffre énormément de la crise. Bernard Laporte est avec nous. À tout de suite.
Pratiquer le sport qu'on aime en club est devenu impossible ces derniers mois. Comment s'en sortent-ils ces clubs, associations et fédérations sportives? On en parle cet après-midi dans La France Bouge, Elisabeth.
Et oui, en mettant fin aux compétitions sportives, aux tournois de fin de saison, la crise du Covid-19 a provoqué d'importantes difficultés financières pour les clubs amateurs, aussi bien en foot qu'au rugby. Alors comment sauver ce rugby amateur? Bonjour Bernard Laporte.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fédération française de rugby. Alors, le rugby amateur, ça vous tient particulièrement à cœur parce que vous venez de ce monde. Vous avez été formé à Gaillac. Et quelques jours après le début du confinement, la Fédération française de rugby a décidé de débloquer 35 millions d'euros pour sauver le rugby français.
Oui, merci beaucoup de me rappeler que je viens de Gaillac.
Mais oui, c'est important
précieux.
De le dire, bien sûr.
Oui, c'est très important, effectivement. Un véritable club amateur. Et tout part de là, exactement. Et tous les joueurs de l'équipe de France viennent de clubs amateurs. Ils y sont très bien formés. Et c'est pour ça qu'il faut les défendre. C'est le vivier. Et donc, effectivement, quand on a arrêté les compétitions, vous comprenez bien que c'était à contre-cœur d'empêcher les gens de jouer au rugby. Malheureusement, l'avenir nous a donné raison, puisqu'on ne pouvait pas finir les compétitions. On s'est dit une chose, c'est que les clubs, ils vont avoir des dépenses et plus de recettes. Et vous l'avez bien dit, les fins de saison, avec les tournois, avec les phases finales, etc., ça génère beaucoup d'argent pour ces clubs amateurs. Et donc, on les privait de ces ressources-là. Donc, sous l'impulsion de notre trésorier général et de notre direction générale, effectivement, on a créé un plan de relance de 35 millions d'euros qui va aider les clubs pendant un an, jusqu'à juin 2021, à amortir un petit peu ce manque de rentrée d'argent, parce que l'avenir, malheureusement, semble aussi morose. On ne sait pas si les partenaires continueront à accompagner les clubs. Est-ce que les collectivités locales accompagneront comme elles accompagnaient les associations sportives? On ne le sait pas. Donc voilà, donc ce plan de relance, il était nécessaire pour dire aux clubs, nous sommes là, nous sommes une fédération costaud, comme on dit dans le jargon du sport. Donc on est là pour vous accompagner, pour vous aider, et c'est ce que nous avons fait.
Mais on parle des clubs. Quel type de clubs? Ils sont tous concernés ou c'est seulement certains clubs? On parle de quoi?
Non, là, on parle des 1900 clubs amateurs, effectivement, puisque sur les 35 millions, il y a 30 millions d'euros qui sont fléchés vers le monde amateur et 5 millions d'euros qui sont fléchés vers le monde professionnel qui représente 30 clubs en France.
Mais aujourd'hui, vous comprenez bien ? Aujourd'hui, c'est quoi la réalité d'un club amateur de rugby ?
Comme ça va, vous savez, si on prend de 30 000 euros de budget à les clubs les plus hauts dans la fédération amateur sont à 1,5 million. 2 millions peut-être pour certains. Mais c'est pour ça qu'il y a une grande différence. Mais 80%, ce sont des clubs ruraux. Et c'est pour ça qu'encore une fois, et qui sont pas des villages, mais des petites villes. Et donc on se doit de les accompagner.
On se doit de les accompagner. Vous l'avez dit dans votre lettre adressée le 21 mars, vous leur avez dit, je veillerai personnellement ainsi que l'ensemble de la fédération à ce qu'aucun des 1900 clubs de rugby français ne soit exposé au risque de disparition 2 mois après. Peut-on parler aussi de ce risque-là?
Bien sûr, mais bien sûr qu'on peut en parler. C'est pour ça que chaque fois que j'ai des présidents de club, je leur dis surtout, n'hésitez pas à nous consulter durant la saison, parce que on le disait, il y a beaucoup d'incertitudes quant au partenariat, quant aux collectivités locales et territoriales, ce qu'elles vont donner. Donc on ne sait pas ce qui sera en décembre. Mais moi, il est hors de question qu'il y ait un club de club amateur qui tire le rideau pour des raisons financières. Parce que derrière, il y a des gamins.
Bien sûr.
Il y a des gamins, et moi j'ai été gamin à Gaillac, et si un jour on m'avait dit, mais le club ne peut plus subvenir, et donc il va fermer, j'aurais été malheureux. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là que la fédération, et je le dis au président du club, si en décembre, en janvier, en février prochain, vous avez des difficultés, n'hésitez surtout pas à nous le faire remonter.
Donc ça veut dire que jusqu'en 2021, les clubs ne paieront pas de licence?
Voilà, exactement. Le licencié paiera toujours sa licence, celui qui va s'inscrire dans un club.
Ouais.
Mais jusqu'à présent, vous savez, il y avait ce qu'on appelle une partie licence et une partie assurance qui remontait à la fédération. Ça ne remontera plus à la fédération, c'est nous en direct qui payerons l'assureur. Et eux le garderont et ça leur offrira de la trésorerie.
Alors il y a un point positif, si l'on peut dire, et je me tourne vers Sophie Echen, c'est l'attachement des licenciés à leur club. C'est là aussi, c'est le cœur de tout ça.
Oui, et principalement pour les clubs de rugby d'ailleurs. Près des 3/4 d'entre eux, des licenciés, affirment se sentir très attachés à leur club. Concrètement, la quasi-totalité, 90%, se dit prête à épauler leur club pour sortir de cette crise. Alors ça se traduit par de l'aide économique ou par du bénévolat. Et reste à savoir si ça suffira à relancer la machine, mais quoi qu'il en soit, toute forme d'aide sera la bienvenue, on l'a bien compris.
Alors, à compter depuis le 16 mars, vous avez décidé d'interrompre tous les prélèvements au club. Comment ont réagi les clubs ruraux dont vous nous parliez à l'instant? Ils vous envoient des lettres? Ils manifestent quelque chose?
On a eu beaucoup de mots de remerciement, effectivement, mais encore une fois, c'est notre rang. La fédération, elle est là, c'est pour accompagner. Enfin,
c'est votre
clubs,
rôle, mais vous avez été le président de la première fédération à avoir réagi.
Oui, alors ça m'a fait plaisir, parce que j'ai vu qu'effectivement, on a été les premiers à réagir. On a fait un plan de 35 millions et on a 1900 clubs. Bon, j'ai vu que le football avait fait un plan de 30 millions aussi hier, avait voté. Oui, donc on est fiers. Il n'y a pas de fierté, mais c'est vrai
que... Mais si, vous pouvez l'être, vous, c'était le 16 mars.
On a réagi rapidement parce qu'on s'est vite rendu compte, effectivement, que ça allait être difficile pour ce club-là.
Merci Bernard Laporte d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Et on souhaite une longue vie aux 1900 clubs de rugby français, de clubs de rugby amateurs. Merci à vous. Alors, il y a les sports collectifs comme le rugby, mais il y a aussi les écoles de gym ou les écoles de danse. On a peut-être des enfants inscrits dans certaines de ces écoles. Céline, je crois que c'est votre cas aussi.
Oui.
Alors, vous êtes peut-être inscrit à ce cours de gym ou votre enfant à un cours de danse. Ça fait 2 mois et demi qu'ils n'ont pas mis les pieds. Ça fait quasiment un trimestre de raté. Quelle est la solution pour ne pas mettre en péril la viabilité justement de leur établissement? Bonjour Michel Egea.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et le professeur principal de l'école de danse Studio. Elle est située à Marseille.
Studio 2000 à Marseille.
Studio 2000, pardon, très important. Studio 2000 à Marseille. Vous avez combien d'inscrits dans votre école de danse?
C'est fluctuant entre 120 et 150 inscrits parce que chez nous, il y a des gens qui s'inscrivent pour une saison complète, donc ils s'inscrivent au trimestre. Donc celui qui s'inscrit au trimestre arrête au bout d'un trimestre ou deux trimestres. Puis d'autres arrivent, ce qui fait que d'une moyenne, nous avons à peu près 120 à 150 élèves.
Alors, quelle est la situation de votre école depuis le 16 mars?
Eh bien, nous, depuis le 13, on a fermé les cours le 13 mars. Et là, pour l'instant, jusqu'à la 30 juin, l'autorité sanitaire nous a interdit d'exercer, car nous avons une pratique en danse de salon, la danse où nous sommes en contact. Et donc,
c'est des danses de couple. Donc là, déjà, c'est sûr qu'il fallait arrêter, évidemment.
Oui, mais enfin, entre-temps, les autorités ont autorisé que déjà soit 10 personnes côte à côte, sans masque, autour d'une table, dans un restaurant. Et nous, qui sommes, on n'aurait pu danser avec des masques, 10 personnes dans une salle, mais on n'a pas le droit. Mmh. On n'a pas le droit. Nous n'avons pas le droit, alors qu'ils sont à coude. Et même, en plus, nous avons souvent affaire à des personnes qui sont en couple. Si on avait pris 8 personnes qui sont en couple, ils passent 8 heures par jour, par nuit, dans le même lit. Ils ne peuvent pas, avec un masque, danser sur une piste de danse. C'est un petit peu ridicule.
Donc là, il y a un vrai souci. Je me tourne vers Clara Audry, notre coach.
Oui, est-ce que vous avez éventuellement pensé à revoir le programme justement de votre offre et à proposer différents types de danses qui ne se feraient pas en couple pour permettre justement une ouverture plus rapide peut-être ?
Pour l'instant, ce n'est pas autorisé. Mais la fédération à laquelle nous appartenons, qui s'appelle l'UGED, a proposé un protocole qui propose d'entrer, reprendre nos activités de manière progressive, c'est-à-dire on commencerait avec des cours particuliers qu'on devrait pouvoir faire puisqu'on vient bien chez le kiné et on vient dans les salons de massage et chez les coiffeurs.
Alors vous proposez quoi vos adhérents pour pouvoir les garder et afin de remplir les caisses pour la rentrée? Qu'est-ce que vous allez leur proposer?
Pour l'instant, ce qu'on leur a proposé, nous simplement de reporter les cours, les cours qu'ils ont payés certains jusqu'à la fin du mois de juin. Et donc ça nous fait 3 mois et demi de cours. On leur a proposé de reprendre, à la rentrée, de reprendre les cours qu'elles ont payés.
Et je crois que vous avez envisagé des cours de rattrapage aussi cet été. Ça peut être
une
solution.
Oui, c'est-à-dire que si, bien sûr, si on a le droit de le faire, nous allons faire des cours cet été au mois de juillet-août pour rattraper les cours.
Clara Audry.
Parce que nous, c'est...
Oui, peut-être en plus des cours de rattrapage, une offre peut-être digitale où vous pourriez finalement délivrer vos cours pour les couples à distance. Ça, vous y avez pensé?
C'est très difficile. C'est très difficile dans notre discipline. Personne ne l'a jamais fait. Parce que, d'une part, c'est assez compliqué. Ça veut dire que les personnes, en danse de couple, on montre ce que l'on fait et on prend les gens, on tient par les épaules parfois pour les guider, les manipuler un petit peu pour qu'ils ne comprennent pas. Voilà, il y a un certain toucher. Et donc, c'est difficile à distance de faire des cours comme ça. Et puis, en plus, les gens ont payé pour des cours. Parce que nos cours de danse, on apporte du bonheur aux gens, nous sommes des marchands de bonheur aussi. Les gens aiment bien se retrouver en groupe, et ils ont payé pour une prestation. Oui. Et ils voudraient avoir la prestation pour laquelle ils ont payé, c'est-à-dire non pas des cours en ligne ou des cours comme ça où ils vont danser seuls chez eux. Ce qu'ils ont envie, c'est de danser avec leurs camarades, les personnes qu'ils ont connues dans les cours.
En tout cas, l'idée de Clara Audry de vous lancer sur le digital, ça peut être éventuellement une option. Merci beaucoup Michel Egea. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le professeur principal de l'école de danse Studio 2000, située à Marseille.
Il est 13h48. Europe 1.
Vous avez une entreprise, vous rencontrez des difficultés, l'équipe de la France Bouge est là pour vous avec CCI France. C'est le coup de main d'Europe 1, à tout de suite.
Dernière partie de l'émission avec comme chaque jour le coup de main de la France Bouge. Si vous aussi entrepreneur, chef d'entreprise, vous avez besoin de ce coup de main de nos experts, envoyez-nous un mail e1-lafrancebouge@europe1.fr.
Et c'est le moment de retrouver notre fée, on va l'appeler comme ça, c'est Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
De mieux en mieux. Bonjour Elisabeth. Bonjour tout le monde.
De CCI France. Chaque jour, Nathalie, à 13h50, vous épluchez les dossiers, vous donnez des conseils, les directions à prendre. Et aujourd'hui, c'est avec la directrice générale de Caducé. Caducé, ça s'écrit Caduc, en fait, ça s'écrit C-A-D-U-C. Bonjour Virginie Crémer.
Bonjour à toutes.
Bonjour.
Et bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes chef d'entreprise, vous travaillez avec des agences d'architecture, vous vendez des logiciels pour les métiers du bâtiment. Vous êtes 70 salariés et on va vous écouter exposer votre problème et votre question.
Oui, merci. En fait, en deux mots, mon entreprise est un groupe qui s'appelle Caducé Paragraphe et on est intégrateur technologique auprès de toutes les entreprises du bâtiment au sens large, depuis l'architecte jusqu'au grand constructeur. Et on vend toutes les solutions technologiques depuis les logiciels, en passant par le matériel et aussi des prestations, donc formation, consulting, prestations d'infogérance informatique et de la régie. Et en ce qui concerne donc principalement la régie, et d'ailleurs pour tout le groupe, donc nous avons des experts, ingénieurs, architectes, dessinateurs, modeleurs, que l'on met à disposition de nos clients pour des périodes plus ou moins longues, donc en régie. Et aujourd'hui, tous nos salariés sont en CDI, et c'est pour ça que j'en arrive à ma question. Finalement, comment voyez-vous demain l'évolution du marché du travail et des contrats? Est-ce qu'il va y avoir moins de CDI? Est-ce qu'il va y avoir plus de CDD? Est-ce qu'il va y avoir plus d'intérim, plus de freelance? Voilà, c'est un petit peu l'objet de ma question.
Nathalie Carré, est-ce que vous avez aussi une boule de cristal? Parce que c'est important, cette question.
Là, non, c'est important. Alors, déjà, bonjour. Et la bonne nouvelle, quand bonjour. Même, sur le BTP, on sait bien en France, hein, quand le BTP va, tout va.
Ouais, c'est vrai.
C'est qu'on est, voilà, on est sur une vraie reprise, puisqu'on est, la semaine dernière, il y avait 83% des chantiers qui avaient repris, avec un niveau d'emploi à 87%.
Donc, tout ça, les signaux sont bons.
Les signaux sont bons. En plus, on a, c'est vrai qu'il va y avoir besoin de créativité parce que on est à plus de 80% des Français qui ont revu ou qui veulent revoir leurs critères d'aménagement de logement, avec de l'extérieur, des salles communes plus grandes. Enfin, donc il va y avoir des sujets autour de l'architecture d'intérieur, d'aménagement. La demande de logement est toujours forte. Donc le marché globalement de la filière du bâtiment va bien ou en tout cas reprend bien. Mmh. En Ile-de-France particulièrement, il y a des fonds financiers qui ont été dédiés au secteur du bâtiment et notamment dans le monde de la formation. Parce que c'est vraiment un métier où il y a énormément d'innovation, où il va falloir encore innover. Et donc par rapport vous aux personnes que vous allez mettre en place dans les différentes dans chez vos clients, clairement la couche écologique elle va être de plus en plus fondamentale, elle l'est déjà, mais elle est vraiment ressortie de toutes les enquêtes, elle est vraiment ressortie fortement. Donc la bonne nouvelle, c'est que le marché va bien. Le marché, les tendances qui étaient déjà exprimées s'affirment, mais comme en fait la crise, elle a révélé toutes les tendances, enfin elle a accéléré toutes les tendances qui s'affirmaient déjà. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. En revanche, donc par rapport à l'emploi et à votre question plus particulière, ce qu'on pourrait se dire, c'est bon, d'abord du besoin de main d'œuvre, il y en aura dans tous les métiers.
Vous avez peur, en fait, si je résume, Virginie, qu'il n'y ait plus de chantiers, qu'il y ait moins de besoins, et donc vous retrouvez avec vos 70 CDI, vous savez pas quoi en faire, c'est ça?
Non, c'est pas tant cela, en fait. Je me pose la question si le CDI va encore être intéressante et va encore intéresser les gens qui vont se retrouver soit sur le marché de l'emploi, soit les nouvelles générations qui vont arriver là et qui sortent de l'école après le Covid. Et donc, nous, aujourd'hui, on propose des CDI. Je ne sais pas si demain, pour le personnel en régie, ce sera le CDI qui intéressera.
Nathalie, c'est toujours séduisant,
les futures personnes.
Pour les jeunes diplômés.
C'est plus majeur. Alors, sauf quand on veut comme accéder à la propriété, etc. Mais c'est vrai que c'est plus majeur. Ce qui est intéressant, c'est un élément qu'on voyait la semaine dernière, c'est qu'on a plus de 60% des Français qu'on l'a subi la crise, qui cherchent à changer d'employeur, qui sont en fait reposer la question du sens de leur emploi. Et c'est vrai que vous êtes sur un métier où finalement il y a un vrai service rendu aux citoyens par l'aménagement. On passe quand même du temps chez nous, par penser les il y a beaucoup de créativité à avoir pour penser les espaces qui sont parfois petits, notamment dans les métropoles, différemment pour que tout le monde puisse avoir sa place. Du coup, je pense qu'il va y avoir un engouement sur vos métiers autour du bien-être chez soi et peut-être effectivement des statuts différents de gens qui auront envie de picorer un peu pour croiser, se faire comme un bouc en fait, et croiser plusieurs chantiers, plusieurs travaux pour acquérir de l'expérience. Mais c'est vrai que chez les jeunes, le CDI n'est plus une... Enfin, voilà, moi j'ai 46 ans, CDI c'était genre l'obligation, quoi. C'était le truc... aujourd'hui, c'est autre chose.
C'est l'expérience dans l'entreprise.
C'est l'expérience dans l'entreprise. Et le sens, ce qui va vraiment faire que... ce qui fait que vous allez trouver vos nouveaux collaborateurs, c'est le sens que vous allez donner à leur mission. Et ce sujet de sens, il est fondamental aujourd'hui.
Clara Audry.
Oui, peut-être quelques remarques. Je pense qu'en effet, la flexibilisation du contrat de travail, c'est une tendance de fond, à nuancer néanmoins en fonction des cycles économiques. Hein. En haut de cycle, quand les missions courent de partout, en effet, on va avoir une tendance à la flexibilité. Lorsque la période économique est moins favorable et qu'il est plus compliqué d'aller signer des clients, peut-être qu'il va y avoir un peu d'attrait pour le CDI. Et ce que je dirais, c'est que en fait, faut voir entre ce dont vous, vous avez besoin en fonction de la prévisibilité de votre revenu.
Ouais,
et puis après, est-ce que cherchent les recrues, vos futurs recrues également en face.
Merci à vous. Merci Virginie Crémer. J'espère que les réponses de Nathalie Carré, de Clara Audry vous ont rassuré. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Caduc. Merci à vous Clara Audry, notre coach de cette semaine. Je rappelle que vous êtes associée du fonds Caporn. Et merci à vous Nathalie Carré pour la CCI. Sophie Echen, on se retrouve lundi.
Lundi, avec plaisir.
Hein, on parlera lundi de l'aménagement des plages. Hein,
un avant-goût des vacances.
Un avant-goût des vacances.
C'était Elisabeth Assayag. À lundi. Dans un instant, on retrouve Christophe Ondelat sur Europe 1.